Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
On peut y aller ? C'est parti.
Ici Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ses émissions, écoutez-la et faites-la écouter.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale bande dessinée avec Lorraine Cœur d'Acier de Vincent Bailly et Tristan Thil, paru chez Futuropolis. Tristan Thil, le scénariste, et Vincent Bailly, le dessinateur, nous ont accordé un entretien que vous pourrez écouter en seconde partie d'émission. Également au programme L'Entaille d'Antoine Maillard, disponible dans la collection Solange aux éditions Cornelius Antoine Maillard, que nous allons rencontrer d'ailleurs de ce pas, puisque vous allez pouvoir écouter Antoine dans la première partie de l'émission. Et pour pouvoir justement causer d'Antoine Maillard et de sa bande dessinée, je vais souhaiter le bonjour à Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, et bien évidemment, salut à toutes.
L'équipe de Culture Prohibée remercie Adèle Frostin, Manon Dumas Maurras et Anne-Gaëlle Fontaine pour leur aide sur cette émission. Thomas, tu es venu dans ta besace avec une bande dessinée assez singulière qui s'appelle L'Entaille.
Oui, L'Entaille, qui est une première BD, je crois, première BD d'un jeune auteur qui s'appelle Antoine Maillard. Alors, l'intrigue de L'Entaille se situe dans une petite ville au bord du bord de mer américaine qui peut rappeler la petite ville de The Fog ou même encore des oiseaux qui sont les mêmes villes en fait, et dans laquelle un mystérieux personnage tue des kidams à coups de batte de baseball. Ces événements sont perçus à travers les points de vue de deux adolescents, Daniel, un garçon réservé qui vit avec une mère possessive et castratrice, et Paula, une jeune fille qui est tout le contraire, un peu garçon manqué, et dont la mère passe ses journées devant la télé, une canette de bière à la main. Les deux amis vont, chacun à leur manière, affronter ce mystérieux tueur qui échappe aux policiers. Mais si ce tueur représentait une certaine société états-unienne puritaine ? Antoine Maillard signe le scénario et les dessins de cette bande dessinée étrange et envoûtante et dont l'ambiance peut rappeler les cinémas de John Carpenter ou encore de David Lynch ou encore même un certain It Follows de David Robert Mitchell. Antoine Maillard utilise un noir et blanc très contrasté, au très stylisé, qui se partage entre réalisme et onirisme. Cette ville paraît désincarnée, comme hors du temps. Le style rappelle non seulement les tableaux d'Edward Hopper, mais en plus, le choix du noir et blanc donne l'impression de lire une adaptation en BD d'un épisode de la quatrième dimension, avec ses différents détails anachroniques ou l'utilisation fréquente de cases au format carré, comme si c'était un écran de télévision. un épisode qui évoquerait la solitude et le mal-être d'adolescents dans un monde déshumanisé. Antoine Maillard opte pour une forme d'épure pour installer un fantastique diffus à travers des personnages troubles, notamment ce tueur qui se balade dans la rue, la batte ensanglantée sans que cela semble l'inquiéter. Il y a aussi cette architecture rectiligne, cette ville aux rues étrangement désertes. Cependant, aucun personnage n'est réellement net. Chacun d'eux semble toujours marcher sur le fil, comme si, pour l'auteur, ce tueur, la batte de baseball, à l'allure si American Way of Life, digne des slashers des années 80, symbolisait ce moment de bascule entre la vie et la mort, entre l'adolescence et l'âge adulte, entre sa connaissance de soi et la folie. Pour une première œuvre, L'Entaille, qui est quand même une BD quand même assez sombre, hein. L'Entaille impressionne par sa maîtrise graphique, mais aussi par l'ambition de son scénario énigmatique, qui pose bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
Des réponses, nous allons essayer d'en obtenir de la part d'Antoine Maillard, qui est donc l'auteur de cette bande dessinée L'Entaille, parue aux éditions Cornelius, dans la collection Solange. Antoine Maillard, tout de suite au micro de Culture Prohibée.
Antoine Maillard, après vos études, vous commencez tout de suite comme illustrateur. Alors vous êtes illustrateur à Télérama et à d'autres journaux français, mais chose atypique, vous avez commencé à travailler pour des journaux américains. Que pouvez-vous nous dire sur votre parcours ?
Ça a été un peu des gros coups de chance. Enfin, j'ai commencé à travailler pour le New York Times quand j'étais encore étudiant aux arts décoratifs de Strasbourg et... C'est un peu arrivé par un concours de circonstances. En fait, il y avait un atelier qui était organisé par une directrice artistique du journal quand je suis arrivé à l'école. Et ça a commencé comme ça, en fait. Du coup, j'ai été repéré par la directrice. Elle m'a donné du travail par la suite. Et par effet de ricochet, j'ai travaillé pour d'autres journaux et ça a commencé comme ça.
Quelque part, le fait que vous travaillez pour la presse américaine, c'est aussi quelque chose qui a un gros lien avec vous, parce que vous êtes très, très amateur de culture états-unienne, notamment le cinéma, je crois.
J'aime beaucoup, pas tout le cinéma américain, mais oui, une certaine partie du cinéma américain, puis l'imagerie américaine aussi, plus globalement. Il y a aussi des peintres, il y a des photographes américains qui me plaisent beaucoup. Après, le fait de travailler avec des journaux américains... Ça aide dans le sens où des fois on nous demande de réagir à une actualité ou à certaines choses où il faut savoir manier une certaine iconographie américaine. Enfin, des pays, même si on a une iconographie qui est de plus en plus mondialisée avec la pop culture et etc. Il y a quand même certaines choses qui demeurent pays par pays. Aux États-Unis, il y a une certaine forme d'iconographie, d'image qui parle un peu à plein de gens là-bas. Il y a tellement de pop culture américaine autour de nous que je pense qu'on est tous plus ou moins familiers avec ces images. Mais par exemple, quand je travaille avec le New Yorker, c'est vrai qu'on participe d'une certaine manière à une iconographie américaine dont on réexploite les codes. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et du coup, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir un goût pour ça, en fait, je pense, en tant que français.
De ce que j'ai vu, j'ai regardé un petit peu vos travaux. Alors, il y a un côté de réalisme, mais aussi il y a quelque chose de très politique dans ce que j'ai vu. Il y a un côté de réalisme, mais aussi un réalisme qui se mêle aussi à un petit côté fantastique, surréalisme, que pour dénoncer notamment certains aspects politiques.
Politique, je ne sais pas, en fait. Je pense que, De toute manière, après c'est une opinion personnelle, mais je pense que dès qu'on fait la création entre guillemets, enfin, qu'on publie des choses concrètes, d'une certaine manière, on a forcément un discours politique derrière. Après, pas forcément totalement assumé ou totalement montré, de manière évidente. Après, moi, dans mes images, le côté surréaliste, je crois que j'aime pas trop non plus les choses qui sont 100% réalistes. Je pense que c'est quelque chose. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose en tout cas, elle fait quelque chose d'un peu épuisant et j'aime bien utiliser le dessin pour un peu tordre le réel. Du coup, c'est pour ça qu'il y a à la fois un côté un peu réaliste, mais aussi un côté un peu, détourné, modifié. Enfin, j'aime bien me... J'aime ni les choses trop, comment dire, trop abstraites, trop stylisées, et j'aime pas non plus les choses trop réalistes, donc j'essaie de trouver un peu un juste milieu dans mon travail, que ce soit en bande dessinée ou en illustration, j'essaie de toujours trouver un espèce d'angle qui va moins m'intéresser, et du coup j'espère intéresser les gens qui vont regarder les, les dessins ou les créations qui en découlent en fait.
L'Entaille est votre première bande dessinée, si je ne me trompe pas. Et comment l'avez-vous travaillé ? Comment est né ce projet ? Et comment il a évolué au niveau du scénario, au niveau de l'esthétique ?
Alors au début, c'était un espèce de feuilleton que j'avais un peu improvisé quand j'étais encore étudiant au Beaux-Arts d'Angoulême. C'était il y a presque 10 ans. Et du coup, je faisais un travail de recherche sur les liens entre le cinéma de genre et la bande dessinée indépendante américaine. J'ai un peu commencé ce feuilleton presque comme un exercice pratique, en fait, pour un peu explorer les choses que j'étudiais de manière très théorique. Je voulais garder un lien avec le dessin. Du coup, je faisais des petites pages comme ça entre les cours et je les postais sur Internet. Donc ça a commencé un peu comme ça, comme un feuilleton qui n'avait pas forcément beaucoup d'ambition. Et c'est quand je suis arrivé aux arts décoratifs de Strasbourg où là, des professeurs m'ont encouragé à en faire vraiment un projet éditorial. Du coup, là, j'ai commencé à en faire des fanzines papier que je distribuais sur des festivals ou à des occasions comme ça. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à plus m'intéresser à la cohérence du récit. Au début, vraiment, j'improvisais des pages. Je crois que je prévoyais 4 pages d'avance, puis après, je devais réécrire la suite parce que je prévoyais pas mon récit de A à Z. Vers 2015, là, j'ai vraiment commencé à vouloir en faire quelque chose d'un peu plus sérieux et j'ai vraiment j'écrivais plus épisode par épisode. Et au même moment, le récit a commencé à être prépublié dans des anthologies un peu sérieuses de Requin Marteau et dans d'autres parutions un peu plus installées dans la bande dessinée. Et du coup, à la fin, j'avais déjà 60 de pages et je me suis dit, bon, bah, faut que j'en fasse un livre. En fait, je peux pas le laisser à l'état de fanzine ou de feuilleton ad aeternam. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à essayer de finir le récit et aussi à retravailler le début, ce que j'avais fait au tout départ, pour rendre vraiment une histoire très cohérente. Du coup, c'est un processus qui a été très sinueux, où j'ai un peu essuyé les plâtres, en fait. D'ailleurs, c'est vraiment bien que j'avais mon activité d'illustrateur à côté. Du coup, j'avais pas de pression sur ce projet-là. C'était vraiment mon bac à sable et je pouvais me tromper, faire plein d'essais. Ça m'a permis de faire un peu mes armes dans la bande dessinée. Du coup, j'avais une très grande liberté et c'était un peu presque luxueux, en fait. Je ne l'ai pas fait à plein temps, je l'ai vraiment fait par intermittence entre illustration et d'autres projets. Et ça a mûri jusqu'à ce que le livre se finisse du coup, l'année dernière et du coup, qu'il paraisse sous la forme actuelle. Mais on peut encore trouver des pages sur Internet, des pages qui ne sont pas dans le livre, des très très vieilles pages qui datent de 2012 ou 2013.
Écoutez Antoine Maillard, auteur de L'Entaille, bande dessinée parue dans la collection Solange aux éditions Cornelius, au micro de Culture Prohibée.
Parlez-nous un peu des différentes influences. Et aussi, est-ce que le fait d'avoir travaillé pour des journaux états-uniens a influencé votre style et l'orientation que prenait votre BD ?
Pour les influences, oui, il y a toute une iconographie qui est liée au cinéma de genre. Il y a Edward Roper, bien sûr, parce que Edward Roper a aussi beaucoup influencé des cinéastes américains. Donc il y a beaucoup en cinéma, il y a beaucoup David Lynch, qui qui m'a beaucoup inspiré, enfin, ce qu'il a fait dans les années 80-90. En bande dessinée, bah, il y a Panel Close, hein, qui est un peu mon, mon maître, j'ai envie de dire. Il y a aussi un peu de... Il y a un peu de bande dessinée japonaise, enfin de manga. Quand je faisais l'album, j'étais très fan, enfin, je suis toujours très fan d'un genre typique japonais qui s'appelle l'eroguro, donc l'érotico-grotesque. Et les artistes qui évoluent autour de ce genre, donc c'est des bandes dessinées un peu d'horreur, un peu influencées par le romantisme gothique européen, et ça a aussi beaucoup influencé la BD. Je pense à des gens comme Junji Ito, qui est un peu connu pour les connaisseurs de culture japonaise. Et sinon, en bande dessinée, il y a aussi Adrien Tomine, enfin tous les gens qui découlent un peu de Daniel Clowes et de son mouvement-là. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Le fait de travailler pour des journaux américains, ce qui m'a influencé, c'est que pour travailler pour la presse, j'ai dû mettre en place des techniques pour aller vite en fait dans mon dessin, parce que c'est des délais très très courts, surtout pour des journaux comme le New York Times ou des journaux comme ça où c'est vraiment, on doit réagir à l'actualité à chaud, c'est très très rapide. Je pense que ça m'a aidé dans ma bande dessinée, en tout cas, à aller à l'essentiel dans mon dessin et dans ce que je veux raconter. Ça m'a permis de simplifier beaucoup de choses, en fait, le dessin de presse, enfin, le dessin éditorial. Je pense qu'avant, j'avais un dessin beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus compliqué, et parfois de manière un peu inutile. Et le fait de faire du dessin de presse, ça m'a habitué à composer et à aller droit à l'essentiel. Parce qu'un dessin de presse, il faut qu'il parle à beaucoup de gens, c'est les gens qui vont lire l'article, faut pas forcément qu'ils aient non plus une culture trop savante des images, ça doit parler à tout le monde, et je pense que ça m'a appris à simplifier, à être dans une certaine forme d'épure, en fait, je pense.
Parlez-nous un peu de cet étrange personnage. Que pouvez-vous nous dire sur cet étrange personnage dans votre BD, ce personnage de tueur à la batte de baseball?
Alors du coup, c'est un personnage qui est vraiment inspiré par le cinéma de genre américain et un genre très particulier qui s'appelle le slasher. Aux États-Unis, c'est des films qui sont arrivés vers les années 70-80 qui sont caractérisés par des espèces de tueurs masqués ou en tout cas de tueurs qui ont un peu des allures de croque-mitaine. Il y a le film Halloween de John Carpenter qui est un peu considéré comme un des initiateurs de ce genre. Et du coup, ce tueur à la batte de baseball dans ma BD, c'est une figure qui est inspirée de ce genre-là, et en même temps que je détourne un peu, dans le sens où dans les films d'horreur traditionnels, bah, c'est un antagoniste autour duquel va se structurer tout le film, ça va être vraiment le principal enjeu du film. Moi, dans ma BD, je m'en sers plus comme une espèce de prétexte, en fait, pour développer mon histoire, et j'en fais un personnage qui est un peu impalpable, qui n'a pas vraiment de visage, on ne sait pas trop si c'est un personnage réel, s'il est fantasmé par les personnages. J'en fais une espèce de figure qui hante le récit, mais qui, au début, on peut se dire « Ah, ça va être un récit de tueur, du coup, ça va être ce personnage-là, la figure centrale du récit. » Et en fait, non, très vite, je m'en éloigne, en fait, et c'est un peu un prétexte pour appeler le lecteur dans l'histoire. Mais très vite, ce personnage de tueur est plus une forme de menace qui hante la BD, mais qui n'est pas le sujet principal, en fait. Du coup, d'une certaine manière, je convoque ce genre, mais sans, comment dire, en suivre tous les codes, et notamment du coup le tueur dans la BD, à quelque chose d'impalpable que j'ai voulu garder comme ça. Je sais que ça a pu frustrer certains lecteurs qui pensaient vraiment lire un hommage à 100% pur jus au slasher movie, mais du coup, moi, j'ai un peu, essayé à mon modeste échelle de réinterpréter le genre. Moi, dans ce genre de film, c'est jamais ce qui m'a trop... Enfin, ça intéressait jamais beaucoup le côté horrifique. Par contre, j'aimais beaucoup dans les films d'horreur de cette époque-là, vraiment le côté très descriptif de la vie des personnages et des ambiances des villes. Ça passait souvent dans des petites villes de banlieue, et c'est plus ça qui m'intéressait dans ces films-là. Et du coup, ma BD va plus dans cette direction-là. Mais du coup, il y a quand même ce personnage inquiétant de tueur à la batte de baseball qui reprend aussi un peu les codes, il ressemble à un batteur de baseball, parce que dans l'iconographie des teen movies, le sportif, ce qu'on appelle en anglais le joke, c'est un peu un personnage qui oppresse d'autres lycéens, d'autres étudiants, et du coup je voulais aussi convoquer un peu cette image-là de la pop culture américaine. Et du coup, voilà.
Justement, vous parliez de David Lynch. On pense... l'ambiance que vous développez dans votre BD évoque eh bien, évidemment Blue Velvet, mais aussi Twin Peaks, notamment ce personnage à la batte de baseball. Quelque part, c'est aussi un personnage symbolique comme le fameux Bob de la série Twin Peaks aussi, qui révèle, en fait, qui sert de révélateur à véritable personnalité des différents protagonistes.
Tout à fait. Ouais. Ben après, je suis ultra. Enfin, Twin Peaks, c'était une grosse. Enfin, c'est toujours une grosse influence. Et oui, il y a complètement ce mécanisme-là que j'essaye d'utiliser. Je pense que Lynch, il l'a fait de manière beaucoup plus complexe, hein, parce que sur une série télé, il a eu un espace très très long pour développer ça. Moi, je le fais plus à une échelle plus modeste. Mais oui, c'est un personnage qui est totalement symboliste en fait, où vraiment le lecteur peut se projeter. Dans Twin Peaks, il y a ça. Après, je ne veux pas trop gâcher aux auditeurs qui n'auraient pas vu la série Twin Peaks, mais il y a ce côté où c'est des personnages qui, on ne sait pas trop s'ils sont réels ou s'ils sont fantasmés, si c'est des allégories de la folie ou si c'est vraiment des personnages de nature fantastique. Et j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime beaucoup l'ambiguïté où on ne sait pas vraiment où est le réel et pas vraiment le fantasme ou l'onirisme. Du coup, ça a été une grosse influence dans la BD. Alors dans la BD, je voulais faire au début quelque chose un peu à la Twin Peaks. Je voulais que la ville ait un vrai rôle à jouer. Je voulais qu'il y ait tous les personnages et des anecdotes sur la ville. Quelque chose que j'ai pas fait au final parce que ça m'aurait pris 3 bouquins pour le faire. Mais puis ça aurait un peu noyé le propos, je pense. Mais je trouve que Twin Peaks, c'est une œuvre qui est vraiment fascinante encore maintenant. Il y a une espèce de mécanisme narratif, de générosité dans cette série, ouais, qui m'a beaucoup influencé, je pense, dans la BD. Je vais pas trop en parler, parce qu'après, moi, je pourrais en parler des heures, mais ouais, c'est une très bonne remarque.
De la petite ville américaine qui sert de décor à L'Entaille, bande dessinée d'Antoine Maillard, parue aux éditions Cornelius dans la collection Solange que nous venons d'écouter à l'instant dans Culture Prohibée. Nous allons passer au destin aussi d'une autre ville, Longwy, en France, Longwy, qui a été bouleversée par la naissance d'une radio en 79 qui s'appelait Lorraine Cœur d'Acier, radio qui s'est créée à l'initiative de la CGT suite à l'annonce d'un nouveau plan de restructuration dans la sidérurgie française. Et cette bande dessinée s'intitule Lorraine Cœur d'Acier. Elle est signée Vincent Bailly et Tristan Thil. Elle est parue chez Futuropolis. Et elle s'attache, en nous racontant l'histoire de cette radio, elle s'attache à suivre les pas de Camille Lipovski, qui a tout juste 18 ans, qui va s'investir dans la radio, qui va rencontrer son premier amour. On va découvrir aussi les destins de son meilleur pote, qui est un travailleur immigré. On va découvrir aussi son père, qui est plus un stalinien, un immigré polonais, cégétiste au PCF, qui au départ ne veut pas entendre parler de cette radio, qui va s'y mettre petit à petit. Sa mère, d'origine italienne, donc on va découvrir un personnage très profond aussi au fur et à mesure que la BD avance. Le plus simple pour parler de cette bande dessinée, très belle bande dessinée parue aux éditions Futuropolis, c'est qu'on aille à la rencontre des auteurs, donc Tristan Thil, le scénariste, et Vincent Bailly, le dessinateur, qui sont de suite au micro de Culture Prohibée. Je voulais déjà commencer par poser une question à Tristan. Vous êtes auteur, réalisateur, scénariste, vous avez signé une dizaine de films, vous composez également la musique. En dehors d'être un touche-à-tout, pourquoi le réalisateur que vous êtes s'est aussi tourné vers la BD ?
Parce que c'est vachement bien. parce que ça permet un tas de choses et... qui sont pas possibles en documentaire. Hein. C'était notamment le cas lors de notre première collaboration avec Vincent sur un livre qui s'appelait Congo 1905, le rapport Brazza, qui parlait de la colonisation française en Afrique en 1905. Et pour des raisons assez évidentes, la bande dessinée permet un récit direct, dans n'importe quelle époque, n'importe quel lieu, avec des mises en scène qui sont complètement impossibles autrement, quoi. Sinon, on parle cinéma de fiction, mais bon, là, c'est d'autres moyens et d'autres complications. Moi, j'aime la bande dessinée, surtout, et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir en faire, notamment avec Vincent. Que ce soit dans la bande dessinée, effectivement, ou dans les documentaires, quoique pas tous, hein, ils sont pas tous comme ça. Il y a effectivement l'envie de raconter des histoires de gens ou de thèmes qui me tiennent à cœur, quoi. Et puis bon, moi je vais vers ce genre de thème là, quoi. C'est-à-dire d'essayer de raconter l'histoire du point de vue pas forcément de ceux qui l'ont écrit, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi, d'être dans une espèce de position comme ça où on met le projecteur, ou en tout cas l'angle du côté de ceux à qui on l'a pas forcément donné toujours, quoi. Et du coup, Lorraine Cœur d'Acier rentre complètement là-dedans, puisque l'histoire de cette radio, c'est surtout une radio qui est venue donner la parole à des gens à qui on ne l'a donné jamais, finalement.
Votre rencontre, en tout cas moi, elle me paraît presque inévitable, parce que je trouve que, mais ça n'engage que moi, que votre dessin, Vincent Bailly, il évoque un peu par moment celui de Baru qui était le professeur de Tristan Thil au Beaux-Arts de Metz. Comment s'est passée cette rencontre, justement, entre vous deux ? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble ?
L'éditeur. Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est Claude Gendreau, notre éditeur, qui est un peu le troisième mousquetaire, quoi, de la bande, parce que qui a pas son nom sur le bouquin, sur la couverture en tout cas, mais qui est quand même un maillon essentiel de la fabrication des livres, quoi, et surtout de notre duo, quoi, avec Vincent, parce que moi, quand j'ai d'abord rencontré Claude Gendreau chez Futuropolis, quand je suis venu avec mon scénario ou mes idées de scénario à une époque, et j'avais pas forcément de dessinateur je suis pas venu avec un dessinateur, si vous voulez, quoi. Donc j'étais là seul, et très rapidement Claude m'a parlé de Vincent, donc je connaissais déjà le boulot, évidemment, quoi, et Claude a dû parler à Vincent de moi, de ma proposition, etc. C'est comme ça que la rencontre s'est faite, quoi, tout simplement, autour du travail, quoi, autour d'un projet, quoi. Et puis après, il fallait que le projet, en l'occurrence le rapport Brazza, ça plaise à Vincent, qu'il ait le temps, l'envie, d'aller là-dessus, sur ce genre de sujet, de travailler avec moi, qui était en plus assez débutant, quoi, sur la scénarisation. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis c'est vrai que Lorraine Cœur d'Acier, enfin, je pense que Vincent, il pense plus ou moins la même chose, mais c'est un deuxième livre. En plus, on l'a directement enchaîné depuis le premier, c'est-à-dire sans pause, on est passé on a quasiment tout de suite. Et après, c'est assez agréable, hein. Moi, j'aime bien bosser. Avec Vincent, c'est super. Et puis c'est vrai que avec le temps et les pages qui sont tombées, il y a des petites habitudes qui se mettent en place. On se connaît mieux, donc on se comprend. Vincent, quand je lui envoie un texte, il voit où je veux en venir. Et puis moi, je me doute de la façon dont il va réagir, etc. Donc c'est vraiment assez agréable de travailler comme ça, quoi. Voilà comment on s'est rencontrés assez simplement par les maisons d'édition.
Et comment vous travaillez ensemble? Vous disiez que vous envoyez votre texte à Vincent. Est-ce que vous envoyez des indications en matière de dessin et tout? Parce que, par exemple, moi, si je prends l'album qui est là, c'est très, au niveau du cadre et tout, il y a une grosse réflexion. On alterne les séquences dialoguées, cadrées en gros plan, à la manière un peu justement d'un documentaire tourné caméra à l'épaule, d'autres séquences... sans dialogue, sont très très découpés. Comment vous bossez ensemble cet aspect-là de la graphie de la BD?
Ben comme ça, quoi. C'est-à-dire que effectivement, on envoie des. Enfin, moi, j'envoie un texte à Vincent qui est découpé scène par scène, case par case, quoi. Et puis après, Vincent, il en fait son affaire, quoi. C'est-à-dire que il suit pas forcément ce que j'écris et c'est tant mieux. Et puis toute la réflexion après, c'est vraiment au moment du storyboard, quoi. Tu vois que Vincent réagit à ce texte-là. Alors oui, il y a un découpage, mais bon, c'est amené à bouger. Et puis c'est au moment du storyboard où vraiment tout se discute entre nous. Et puis après, bon bah quand c'est la réalisation des planches, là c'est déjà dans le marbre, quoi, quasiment. On touche quasiment plus à rien. Voilà comment ça se fait. Mais après, c'est vrai que c'est assez découpé. C'est pas forcément toujours comme ça. Après là sur LCA, c'était vraiment pas mal parce que au niveau de, j'avais parlé de la documentation. Autant sur Brazza, voilà, c'était une période lointaine. Il y a eu un gros travail dans les archives, de recherche iconographique, etc. d'un univers qu'on connaissait pas, quoi, du tout. Et puis, mais là, alors que Lorraine Cœur d'Acier, c'était quand même assez génial. Il y avait plein de choses que j'ai, découvert, moi, dans les planches de Vincent. Les détails, ça peut paraître bête, hein, mais la couleur des papiers peints dans les maisons, ce genre de détails qui donnent.
Oui, par exemple, les cuisines se ressemblent toutes. Ouais. À Longwy, donc on est arrivé il y a une dizaine d'années, on a cassé la cuisine depuis et on l'a refaite. Mais voilà, j'ai récupéré des photos qui ressemblaient absolument à ce que j'ai vu dans la baraque en entrant dedans. Donc voilà, il y a le fait d'habiter sur Longwy est plutôt assez rigolo au niveau de la documentation. Je vais voir les gens qui ont connu le truc, qui me montrent des polaroïdes de l'époque. Il y a une vraie facilité au niveau de la documentation. Sur le découpage, comme dit Tristan, bah oui, on discute pas mal. Il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du storyboard. La narration se met en place à ce moment-là. Bon, Tristan, il est réalisateur, hein, il fait du documentaire par ailleurs. Donc, il a souvent une idée assez précise de ce qu'il a envie de voir. Mais évidemment, j'en discute. Je remanie le cadrage si j'ai envie. Et j'aime bien ces discussions-là avant de passer à la réalisation des planches, parce que ça permet de mettre la narration en place. C'est un peu le cœur du boulot du duo qui entre un scénariste et un dessinateur.
I need it money 'cause I'm hitting none.
vous écoutez le scénariste Tristan Thiel et le dessinateur Vincent Bailly, auteur de Lorraine Cœur d'Acier, paru chez Futuropolis, au micro de Culture Prohibée. Pourquoi le choix de faire une BD sur cette radio libre, hein, qui a été, je rappelle, fondée en 79 par la CGT pour lutter contre les fermetures dans la sidérurgie, radio pirate, évidemment. Pourquoi ce choix et après, pourquoi le choix de ne pas l'avoir fait non plus de façon documentaire, mais d'avoir travaillé sous l'angle d'une famille ?
Clairement, depuis au départ, et on était assez d'accord là-dessus, il y avait l'idée que faire un documentaire ne serait pas le plus intéressant. Voilà, on voulait raconter les gens, on voulait raconter cette histoire. Et il y a un espèce d'écueil à avoir quelque chose qui soit trop documentaire. Il fallait rentrer dans cette histoire et cette famille fictive était vraiment quelque chose d'intelligent à faire pour amener le lecteur dans l'histoire, tout en respectant évidemment l'histoire de Radio Lorraine Cœur d'Acier. On a aussi de toute façon beaucoup de gens qui existent, même qui sont encore là, Michel Olmi qu'on a pas mal rencontré pour faire l'album, mais voilà, si on voulait parler de l'époque et surtout ce qui nous intéressait, c'est de se demander qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un jeune homme ou de quelqu'un de plus installé, son papa Eugène et Camille, qu'est-ce qui pouvait se passer dans leur tête dans les années 79. Il nous fallait une famille fictive.
Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que le documentaire, et moi c'est vraiment ce qui m'intéresse de moins en moins dans le documentaire, c'est qu'on est toujours en train de mettre en scène une histoire qui s'est passée. Donc, si vous voulez faire un documentaire sur Lorraine Cœur d'Acier ou quel que soit le sujet, mais qui est passé aujourd'hui, vous allez faire quoi ? Faire des interviews des quelques personnes encore existantes, et puis qui vont vous raconter « Ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, c'était super. » Alors, et puis, vous allez aller chercher des archives qu'on va monter plus ou moins bien pour recouvrir les témoignages de têtes qui parlent à l'écran. Et je veux dire, au niveau de la construction du récit, c'est quand même... quand même un peu chiant, quoi, faut dire les choses, quoi. Moi, ce genre de grammaire de documentaire, c'est vraiment un truc, j'en ai vraiment marre, quoi. Je zappe, quoi, si je tombe sur des documentaires comme ça. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans un récit direct, et c'est ça que permet la bande dessinée, c'est ce que je racontais tout à l'heure même sur le rapport Braille, c'est-à-dire que, on est sur des gens qui sont en train de faire les choses, quoi, et non pas des gens qui racontent comment ils ont fait les choses. Et avec des scènes dialoguées, c'est beaucoup plus vivant, quoi. C'est une bande dessinée, il n'y a pas de son. L'image, elle bouge pas, mais c'est mille fois plus vivant qu'un documentaire en le faisant aujourd'hui sur une époque révolue comme celle-ci, quoi.
Ouais, et puis on évitait la nostalgie aussi. C'est une
époque oui, bien sûr,
révolue. Et là, en sortant un tout petit peu du documentaire, enfin intelligemment, on a quelque chose, un récit vivant, tout bêtement. Ce qu'on risquait de louper si on était trop près de, s'il y avait trop de cul, quoi.
Et puis ce qu'on raconte aussi souvent sur cette histoire de famille inventée, c'est qu'effectivement, ce sont nos personnages principaux, c'est eux qu'on suit finalement. Radio Lorraine Cœur d'Acier, même des personnages existants comme Tria ou Dupont sont là, évidemment, ils ont toute leur place, mais ils font partie d'un contexte, quoi. Et l'histoire parle à la fois de Lorraine Cœur d'Acier, mais elle parle surtout d'un moment de rupture et de la trajectoire de ces personnages de famille. Et ça donne plus de liberté dans l'écriture et ça permet aussi plus d'efficacité aussi, mais quelque part ça donne presque plus de justesse en fait. Finalement, on est plus proche de quelque chose de vraiment vraisemblable ou réel ou fort avec ces personnages de fiction que si on avait superposé des personnages ayant réellement existé, mais dont on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on voulait puisqu'on aurait été contraint par le réel et par le fait de ne pas leur faire dire ou faire des choses qu'ils n'ont pas dites ou fait. En fait, par exemple, je pense au personnage d'Eugène. Il est une des composantes de ce personnage de fiction, donc le père de Camille, vieux sidérurgiste, syndicaliste, cégétiste convaincu, membre du PC, hyper sectaire et anti-Lorraine Cœur d'Acier au début, parce qu'il ne supporte pas que Lorraine Cœur d'Acier donne la parole à tout le monde et pas qu'aux gens de la CGT. Voilà, il y en avait des comme ça. Et en fait, il y a un personnage comme ça célèbre de l'histoire de LCA qui s'appelle Marcel Donati, qui est qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un type assez incroyable, quoi. Et le parcours de cet homme-là m'a inspiré en partie le personnage d'Eugène, vous voyez. Mais c'est plus intéressant finalement de le mettre un peu dans ce personnage-là et de mettre d'autres choses aussi dans ce personnage-là, parce que ça permet d'aborder plein de choses à travers sa trajectoire, quoi.
Il y a aussi un personnage que je trouve très beau, c'est le personnage de Maria, qui est la femme d'Eugène. À un moment, elle débarque avec ses amis à la radio pour un grand moment de féminisme. Elle décrit les difficultés pour avorter, la maltraitance hospitalière. Ça se finit même par une manif, un slogan « Prolétaire de tous les pays qui lavent vos chaussettes ». Ouais. Moi, je trouve que c'est un très beau moment dans la BD. En plus, le final est très beau. J'adore la manière dont c'est découpé, où le mari retrouve la femme et tout ça. Et en plus, plastiquement, il y a un énorme travail. Il y a une alternance entre la couleur, le noir et blanc. Donc le final très découpé, sans dialogue, comme je le disais. Moi, je trouve que c'est un très beau moment, ça, dans votre BD aussi. C'est un très beau personnage aussi, ce personnage de Maria.
Et cette séquence des femmes qui parlent de d'accouchement, de planning familial, etc. à la radio, c'est pris dans les archives de LCA, quoi. Donc c'est un des grands moments de la radio qui nous a marqué quand on a écouté les archives et qu'il a fallu faire à un moment donné le choix de savoir quel moment on allait développer dans l'album. Et évidemment, on inclut Maria dans ce groupe de femmes-là, mais voilà, tout ça, c'était un moment assez fort et voilà, réel, quoi.
Ouais, c'était une découverte en arrivant sur les archives. Évidemment, cette prise de parole des femmes, elles sont très touchantes, hein, quand on écoute les archives audio. C'est vrai qu'on a choisi plutôt ces moments-là, et c'était bien de le faire. Il y avait plein d'autres choses super intéressantes, hein, et plein d'autres personnages aussi qui sont passés par la radio. Mais voilà, ces femmes qui sont à la technique d'abord, puis qui ensuite viennent timidement vers le micro et puis prennent la parole et finalement mettent en cause une partie racontent ce qu'elles subissaient, mettent un peu en cause les médecins. Les médecins vont réagir aussi. Tout ça, c'était vraiment une belle découverte et c'était intéressant à mettre en scène.
Il y a aussi un autre personnage que j'aime beaucoup. Alors, le Camille, c'est le héros. Enfin, c'est le héros, c'est le personnage qu'on suit, auquel on s'identifie le plus. C'est un jeune homme donc qui est fils de prolo comme ça, et qui va se retrouver à avoir une porte de sortie lui par la photo, par son talent de photographe. Et à travers lui, il y a un personnage qui est abordé. C'est le personnage d'Ismaël. Et je trouve que le personnage d'Ismaël, qui est le meilleur ami de Camille, hein, c'est un personnage assez passionnant parce qu'il est vraiment représentatif pour moi. Ce qui est terrible pour lui, c'est qu'en plus de subir le racisme banal du quotidien, il y a la violence symbolique qui va l'empêcher de sortir de sa condition. Donc, au contraire de Camille, qui va pouvoir aller vers autre chose, pour Ismaël, on a l'impression qu'il n'y a pas d'avenir, quoi. Il n'y a pas de possibilité autre que de rester un prolo à vie.
C'est ça, il n'y a pas trop d'issue pour lui, quoi. Et c'était une façon aussi de mettre en... Enfin, il n'y a pas trop d'issue, la BD ne le dit pas, puisqu'on s'arrête avant, mais... Dans l'idée, c'est un peu ça. Et c'était aussi histoire de mettre en... par ce personnage et par cette trajectoire-là, de mettre aussi davantage en évidence la trajectoire de Camille qui quelque part, est exceptionnelle dans le sens où elle sort, elle fait exception, quoi, à la règle, qui voudrait que... à la règle, en tout cas, déterministe, quoi, qui voudrait que, voilà, si t'es fils de prolo, bah, tu resteras comme ça et tu peux pas, il n'y a pas d'émancipation possible, il n'y a pas de sortie possible. Mais ça nous dit aussi que cette échappée du personnage, elle n'est pas, tout le monde n'a pas cette chance-là ou cette possibilité-là. Et puis ça vient aussi montrer le sentiment de trahison qui envahit le personnage de Camille, qui, en s'émancipant, finalement, se sent un peu à peur d'être un souffle traître, quoi. qu'il y a un sentiment de trahison par rapport à son père, par rapport à son milieu, etc., etc., quoi. Et ça, c'est normal que dans ce genre de personnage-là, ça, c'est forcément quelque chose qui travaille l'esprit, quoi, cette sensation-là, quoi. Et puis avec Ismaël, il y avait j'avais aussi envie d'aborder quelque chose qui était abordé à l'époque de Lorraine Cœur d'Acier. C'était justement le cas des travailleurs immigrés. Donc on est à une époque, dans la fin des années Giscard, où il y a les lois, la loi fameuse loi de Toléru, du nom de celui qui l'avait portée, qui proposait de l'argent aux travailleurs immigrés pour qu'ils rentrent au pays, quoi, en gros, puisqu'on n'avait plus besoin d'eux et que le chômage de masse commençait à pointer le bout de son nez. Et y avait cette émission à LCA qui s'appelait La parole aux immigrés, qui était une émission qui était en français et en arabe, et qui était réalisée par des travailleurs immigrés. Et on a entendu des extraits qui étaient assez chouettes de ça. Et à travers le personnage d'Ismaël, je voulais aussi faire passer dans cette émission-là un glissement sémantique assez important de l'époque, c'est-à-dire que les travailleurs immigrés, ça ne vient plus que des immigrés, tu vois. Et ils ne sont plus travailleurs. Donc il y a une espèce de perte d'identité comme ça qui est assez dramatique et qui fait qu'en fait, on va leur coller cette étiquette-là et on est dans ce virage des années 70-80 et on voit bien ce qui commence à faire le lit du Front National, de tout ça, c'est-à-dire la désindustrialisation qui entraîne un chômage et qui entraîne le racisme et qui entraîne le vote FN dans des endroits qui étaient communistes, en fait. Voilà, ça, c'est un peu annonciateur de tout ça.
Cette radio va s'arrêter, bon, on le découvre dans le livre, enfin, ceux qui connaissaient l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier le savent, bon, la CGT coupe les vivres, la radio s'arrête, bon, elle va perdurer un petit moment grâce à la solidarité, mais bon, elle va s'arrêter. Peu de temps avant l'élection de Mitterrand. Et au final, que diriez-vous qu'il reste de cette radio dans l'histoire sociale de la France ?
Il en reste une forme. On en parle encore aujourd'hui, quoi. Donc,
c'est bien. Bien sûr. Alors, elle est dans toutes les mémoires ici, évidemment, localement, et puis même au-delà. Évidemment que c'est un moment d'histoire de la radio, un moment où le micro est étendu à toute une population, à la population ouvrière. C'est dans les mythologies de pas mal de gens qui font de la radio maintenant, du journalisme probablement, et puis dans celle des ouvriers, des Lorrains aussi, mais au-delà aussi de cette radio, elle rencontre de la fin d'une époque. Et puis oui, c'est devenu un petit mythe. Les gens par ici en parlent avec émotion, s'en souviennent. Voilà, j'ai encore revu Michel Olmy pour une émission sur France 3. Il passe beaucoup de temps à continuer à raconter cette histoire.
Et puis il en reste une espèce d'idéal, quoi, de ce que peut être une radio libre, vraiment libre, avec une qui donne la parole aux gens de façon totalement libre. Donc c'est, ouais, il en reste une espèce d'idéal et de qui aura duré un temps et qui fait mythe du coup à un moment donné, quoi, comme un peu toute proportion gardée, bien entendu, quoi, mais comme on pourrait aujourd'hui évoquer, par exemple, l'histoire de la Commune de Paris. Vous voyez, c'est-à-dire que il s'est passé à un moment donné une chose comme ça, cette éruption, c'est une grosse effervescence, c'est un feu d'artifice, ça dure un temps, et puis voilà, ça se finit toujours mal, forcément, quoi. Mais bon, il en reste quand même quelque chose, puisque ça essaime et puis que ça reste dans les mémoires et que ça fait partie de l'histoire, l'histoire populaire, justement, quoi, et que c'est important à ce titre-là.
Eh bien, merci Tristan Thiel et Vincent Bailly pour cet entretien. Je rappelle que votre BD s'appelle « Lorraine Cœur d'Acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire, 1979-1980 » et que c'est paru aux éditions Futuropolis. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.